Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
AES CDA ouvert un nouveau départ sur le thème du Grand Dialogue de ce soir, le 17 et 18 avril 2026 à Lomé. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, AES, et des représentants de la CDAO ont relancé le dialogue. Objectif, jeter les bases d'une coopération renouvelée après plusieurs mois de tensions. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par des défis majeurs communs, notamment en matière de sécurité et d'économie. Face à ces enjeux, le Togo s'affirme comme un acteur clé de la médiation. Sa stratégie Togo Sahel 2026-2028 mise sur trois axes principaux: le dialogue politique, la sécurité régionale et l'intégration économique. Dans le même temps, l'AES poursuit son renforcement militaire. Sa force unifiée pourrait désormais dépasser les 15 000 hommes, avec des avancées signalées dans la zone sensible des trois frontières. Ce rapprochement marque-t-il le début d'une réconciliation durable entre l'AES et la CDAO? S'agit-il d'un pragmatisme dicté par l'urgence sécuritaire ou d'un repositionnement politique stratégique? Au-delà des enjeux diplomatiques, quels seront les impacts concrets pour les populations ouest-africaines? Pour en discuter, nous recevons nos invités, Dr Hamadou Touré, spécialiste en gouvernance locale, Mohamed Cissé, leader d'opinion. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Nous commençons par un tour de table avec vous, Mohamed Cissé. Les relations entre l'AES et la CDAO sont-elles en train de se réinventer?
Sûrement, mais même obligatoirement par rapport au voisinage, aux liens historiques et aussi même à l'unicité des peuples de différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi historiquement, cette organisation qui a été créée sous le leadership de trois généraux, d'ailleurs, comme une répétition.
Deux généraux et un capitaine.
Oui, deux généraux
et un capitaine.
D'accord. Donc, c'est obligatoirement parce qu'on avait une entité commune qui était la CDAO, par la force des choses. Et trois pays se sont sortis de la CDAO pour créer l'AES, qui a au début créé beaucoup de discussions, beaucoup de d'incompréhension. Et au fil du temps, aujourd'hui, ça a été une réalité et ça a été accepté. Et par la demande des peuples et des leaders et d'autres pays, ces différents pays qui forment et l'AES et la CDAO doivent obligatoirement travailler ensemble. Donc, en marge du forum à Lomé, je pense que la CDAO, à travers le président de la commission et aussi celui qui a été choisi, son excellence Lansana Kouyaté, comme négociateur, se sont retrouvés à Lomé pour rencontrer les différents ministres des Affaires étrangères de l'AES afin de trouver une solution diplomatique et économique afin qu'il y ait une corrélation et un bon voisinage.
Quand vous dites que ça a été accepté par les populations du Sahel ou par les organisations sous-régionales?
Je pense qu'au plus haut, d'abord au niveau des Nations Unies, l'AES est reconnue aujourd'hui, l'Union africaine, à travers les déplacements de son représentant dans les différents pays de l'AES, et qui a dit que non seulement elle reconnaît l'AES, mais elle veut travailler en intelligence avec l'AES dans le cadre de la coopération pour la sécurité. Aussi, avec ces gestes, la CDAO a bien reconnu l'AES. Tous les pays qui, au début, étaient notamment les pays de l'Occident, les États-Unis, l'Union européenne, sont tous venus pour rencontrer l'AES. Donc, je peux le dire sans me tromper que l'AES aujourd'hui est reconnue à sa juste valeur.
Ahmadou Touré, peut-on parler aujourd'hui d'un tournant entre, dans les relations entre l'AES et la CEDEAO après la rencontre de Lomé?
Merci, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices et aux auditeurs. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que le Togo est en train de se repositionner. De se repositionner comme un pont logistique, diplomatique et sécuritaire entre l'AES et la CEDEAO. Ce qu'on peut voir dans les jours à venir, les scénarios possibles, c'est qu'il y aura plus de rapprochement avec la CEDEAO à travers le Togo. Et le Togo aussi va servir de pont, quand je dis de pont, pour crisper un peu la tension qui existe avec la CEDEAO et le reste des partenaires. Donc, dans les jours à venir, c'est qu'il y aura plus de rencontres via le Togo. Et le Togo est en train de jouer ce qu'on appelle un médiateur par taxis, c'est-à-dire c'est un médiateur d'office entre l'AES et la CEDEAO et tous les partenaires qui souhaitent parler au nom de leur entité. Et ce qui a amené notre ministre des Affaires étrangères à conclure que la relation et la réunion qui s'est tenue au Togo nous montrent que d'office, il faut travailler avec l'AES, non sur le dos de l'AES.
Cette initiative traduit-elle une volonté sincère de coopération ou simplement un rapprochement de circonstances?
Bon, on ne peut pas dire de circonstances, c'est une volonté purement stratégique pour déplacer les lignes. Qu'est-ce qu'on a constaté? Comme on dit, on ne peut pas évoluer en vase clos parce que les relations internationales nous obligent à travailler avec les partenaires. Et comme on dit, l'AES, de façon générale, peut être considéré comme le Sahel continental qui a besoin de déboucher. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que le Togo va servir de pont logistique, comme je l'avais dit, entre le Sahel continental et le golfe de Guinée, et de part et d'autre. Donc, forcément, ça a été mûrement réfléchi, mais les défis sont là. Les défis sont là, cela veut dire quoi? Il faudrait que ce pays qui tente ou qui serait tenté de collaborer avec l'AES respecte les principes de base, notamment la souveraineté, le choix des principes, entre autres. Donc, le Togo a compris que le Togo pouvait jouer ce rôle et le Togo l'acceptait, à mon avis. Et ce rapprochement est purement stratégique et purement souverainiste pour que, dorénavant, les questions sécuritaires qu'on appelle les crimes transnationaux ou autres, les menaces terroristes, puissent être gérées de façon coordonnée et qu'il y ait une synergie d'action entre le reste du continent à travers le Togo et l'AES.
Le dialogue politique prôné par le Togo peut-il suffire à dépasser les divergences profondes entre les deux blocs?
Pas forcément, parce qu'il y a les principes de base qui sont là. Cela veut dire quoi? Pour travailler avec l'AES, les principes de base, c'est que ces pays comprennent que la politique interne reste le choix des membres de l'AES. Donc si ces pays acceptent qu'il ne faut pas s'ingérer de façon tactique dans leur politique intérieure, la coopération peut y aller d'avant. Donc, sans pourtant dire qu'ils vont travailler ensemble, mais les questions sont là, les questions de politique interne. Si on ne touche pas les questions de politique interne, les coopérations peuvent aller de l'avant. Comme je l'ai dit souvent dans d'autres rencontres, le cas de la Russie ou bien de la Chine qui ne se pose pas des questions sur le plan interne, travaille bien avec l'AES. Donc maintenant, ceux qui veulent travailler avec l'AES, comme le Togo qui va servir de point diplomatique, vont certainement travailler, mais les questions internes restent toujours des sujets sur lesquels il faudrait mûrement réfléchir avant de continuer avec l'AES.
D'accord. Pour Dr Ahmadou Touré, le Togo peut servir de pont. La stratégie togolaise peut-elle réellement servir de pont entre ces deux blocs?
Je pense que cela a commencé depuis longtemps. Et vous vous souvenez de l'histoire des 49 soldats ivoiriens. Le Togo a joué un grand rôle. Et même avant ça, je pense que le Togo a été le premier à essayer d'assouplir et même à conseiller aux autres États et chefs d'État de la CEDEAO sur les différents problèmes que ces pays sont confrontés. Et le Togo a, dès les premières heures, créé une relation de confiance entre ces différents pays et son pays. Et il l'a dit, aujourd'hui, le Togo tient le bon bout avec une position stratégique très intéressante. Pour revenir à votre question encore, le Togo a une position qui est même enviable et qui est très intelligente. et qui sera le pays qui, ou les dirigeants qui, auxquels les chefs d'État de la CEDEAO vont beaucoup s'appuyer pour ramollir ou faire revenir les bonnes relations entre nous. Rappelons-nous qu'avant la CEDEAO, les différents pays restaient. Il y avait ces collaborations entre nous, qui, entre les différents peuples. Maintenant, c'est l'aspect politique, je pense, plus tard avec leur histoire d'additif là, qui a un peu compliqué et qui a carrément déplacé l'objectif fixé par les pères fondateurs de la CEDEAO sur l'économie et les bonnes relations entre les différents peuples. Voilà.
La stratégie togolaise est-elle réellement neutre ou s'agit-il d'un repositionnement géopolitique du Togo de la région ?
Repositionnement, oui. Neutre, je pense que si on écoute bien le ministre des Affaires étrangères, neutre n'est pas un maître mot chez eux. Et neutre, ce n'est vraiment pas une position. On n'est jamais neutre, soit on est pour ou bien on est contre. Ils ont toujours été pour le fait que les différents, au niveau de la CEDEAO, qu'on puisse respecter les différents pays à travers leurs problèmes. Du moment que ces problèmes existaient et que la CEDEAO elle-même qui était là depuis n'a jamais daigné aider ces pays à sortir de leur situation sécuritaire. Jusqu'à sous un président démocratiquement élu, le problème était là. La CEDEAO n'est pas venue. La CEDEAO, d'ailleurs, a été un problème par rapport à ça. On se souvient, juste après les élections présidentielles de 2018, la CEDEAO était venue et avait donné des recommandations qui n'ont jamais été mises en œuvre. Elle n'a pas pu faire bouger les lignes. Et jusqu'à l'intervention des militaires en 2020, c'est le même problème qui reste. Et les différents pays ont décidé souverainement de faire face à leurs problèmes. Si vous comptez sur une communauté, si elle ne vient pas, je pense qu'il faut vous-même vous donner les moyens et de chercher les partenaires qu'il faut. Je pense que l'AES aujourd'hui est à ce niveau, même si au début les gens étaient dubitatifs, mais aujourd'hui l'histoire leur a donné raison. Tous les peuples, je l'ai dit, toutes les institutions aujourd'hui reconnaissent l'AES et sont prêtes aujourd'hui à accompagner l'AES dans son combat.
L'AES demande une coopération sincère. Est-ce la CEDEAO accepterait cette coopération sincère de souveraineté des États du Sahel, comme l'a demandé le ministre des Affaires étrangères du Mali à la rencontre de Lomé?
Certainement, si elle change de posture, si elle accepte de travailler, de collaborer avec l'AES, l'entité AES, il est primordial que les partenaires comprennent que il n'est plus possible, sinon acceptable, de s'ingérer dans la politique interne des pays. Donc si ce principe de base est acquis, moi, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Tant qu'il n'y aura pas d'ingérence interne, il n'y aura pas de difficulté. Et que la CEDEAO, comme l'AES, c'est des entités souveraines qui certainement ne vont pas accepter des injonctions ou de ce qu'on peut appeler en termes diplomatiques de s'ingérer de façon répétitive dans les affaires courantes. Mais à ce point, les deux entités peuvent travailler ensemble. Donc,
peut-on réconcilier souveraineté nationale revendiquée par l'AES et intégration régionale défendue par la CEDEAO?
Oui, c'est possible parce que, comme on l'a dit, l'intégration régionale reflète ce qu'on appelle l'idéal, une idéologie. Mais certes, cette idéologie, elle est nécessaire, mais cette idéologie ne peut pas aller sans les politiques nationales. Donc, les deux vont de pair. Quand on est nationaliste, on est souverainiste, il faudrait accepter que ces pays ont leur propre réalité qui, à un certain niveau, peuvent partager certaines difficultés ou partager les défis qu'on appelle les questions sécuritaires, les questions économiques, mais pas des questions de souveraineté nationale. Donc, pour moi, il n'y aura pas forcément d'opposition de vue. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? La CEDEAO même, c'est combien de pays? une dizaine de pays qui sont là avec leur politique interne, mais à un niveau supra, les pays se retrouvent au sein de la communauté. Donc la communauté, pour moi, ne devrait pas s'impliquer de façon automatique dans la gestion interne de ce pays.
Concrètement, qu'est-ce que ce rapprochement peut changer pour les populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en général?
Bon, concrètement, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle le dialogue politique, comme ça a été prôné. Et dans les jours à venir, il y aura moins de tensions, parce que, comme on dit, si on accepte de se parler, de s'écouter, forcément, on va faire des concessions. Et si on accepte de venir s'écouter, c'est que tout le monde connaît en réalité la position et la valeur de l'autre. Et dans un futur proche aussi, il y aura ce qu'on appelle le bon voisinage, et la coexistence pacifique en termes de prévention, la lutte contre le terrorisme et les crimes et les menaces transfrontalières seront discutées de façon visée avec la CEDEAO à travers le Togo et d'autres partenaires qui peuvent intervenir. Il y aura la coopération économique, l'intégration des peuples, parce que ce qu'il faut retenir, l'AES étant acté son départ de la CEDEAO, les questions de circulation vont certainement se poser, mais à ce niveau, si les deux entités discutent, il y aura les solutions. Et aussi, surtout au niveau de la population, on peut renforcer le système de formation, les questions d'éducation, les questions de satisfaction des besoins des peuples. Donc, c'est vraiment un bien qui est là, mais il faut forcément que chaque entité, comme je l'avais dit au départ, chasse raison gardée. Parce qu'en politique, on dit toujours, en relation internationale, les pays n'ont pas d'amis, mais les pays défendent leurs intérêts. Donc, l'AES défend ses intérêts. C'est certainement la CEDEAO de plus, mais chaque pays à lui-même va sauvegarder les intérêts nationaux. Donc, à ce point de vue, il n'y aura pas de difficultés.
D'accord. Pour Dr Ahmadou Touré, ce rapprochement est un bien et que chaque entité doit garder raison. Alors, pour vous, c'est la même chose?
Je suis d'accord. Comme je l'ai dit au début, on est obligé, que ce soit aujourd'hui ou demain, on est obligé d'être ensemble. Du moment que les peuples sont ensemble, le problème, c'est plutôt politique, à travers des dirigeants qui ont d'autres partenaires et qui ne sont pas des partenaires des pays de l'AES. Je pense que le problème est à ce niveau. Sinon, rien n'a changé. Les frontières restent.
Les priorités sécuritaires ne risquent-elles pas d'éclipser les enjeux économiques et sociaux?
Non du tout. Je pense que les deux vont ensemble. L'aspect sécuritaire, les pays de l'Est ne sont même pas demandeurs d'une collaboration avec les voisins. Les pays de l'Est demandent surtout le respect et la confiance à travers les frontières. Et il l'a dit. Nous avons besoin d'avoir des frontières non seulement sécurisées, mais ouvertes entre les différents peuples, parce que la tension a créé un problème comme ça. On voit que jusqu'à présent, la frontière Bénin-Niger est toujours fermée. Et ça joue beaucoup sur l'économie des deux côtés.
Effectivement, peut-on espérer à une relance des échanges commerciaux entre les pays de l'AES et ceux de la CEDEAO?
Voilà, nous attendons beaucoup du représentant spécial, et le Premier ministre, pour que ce genre de questions soient traitées. Parce que c'est le plus important. Sinon, les restes, je pense que les pays de l'AES se sont organisés, ils ont leur vision, ils ont leur objectif.
D'ailleurs, le nouveau président élu du Bénin n'exclut pas de négocier avec le Niger un dialogue franc et sincère, selon lui.
Il n'a pas le choix. Il a une frontière et il a un port, le seul un port où le principal, je dirais même l'unique partenaire, c'est le Niger. Donc, ils ont tout intérêt à avoir des relations de bon voisinage pour l'économie, je pense pour le Niger aussi. Et c'est la même chose entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, cela est nécessaire et obligatoire qu'il y ait ce genre de démarche et qu'à la fin, qu'il y ait une pacification entre les pays de l'Est et c'est de la CEDEAO.
Mais quels sont, selon vous, les principaux obstacles à une telle collaboration?
L'obstacle, c'est les dirigeants aujourd'hui, certains dirigeants de la CEDEAO qui ont des partenariats souvent obscurs avec je vais dire, avec les adversaires des pays de l'AS. Aujourd'hui, le combat des pays de l'AS, moi, je ne parlerai même plus de terrorisme, je parle de mercenaires. Donc, les différents gouvernements de l'AS ont répété, ils ont dit toujours qu'il y a des partenaires, des gens qui sont en train, des pays qui sont en train de sponsoriser le terrorisme et qui se servent des pays voisins de l'AS comme base arrière. Et c'est une question qui est là, qui est récurrente et qu'il faut débattre et que les uns et les autres sortent de ça.
D'accord. À quoi pourrait ressembler à moyen terme l'architecture régionale ouest-africaine si ce rapprochement se confirme?
Ce qui est important, c'est de préciser que, quelle que soit l'issue des discussions, il est probable qu'on aura toujours deux entités en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'entité AS et l'entité CEDEAO, parce que l'AS est allé trop loin pour faire rétropédalage, et la CEDEAO aussi, en tant qu'entité aussi, pour être réformée, prendre en compte de certaines appréciations, certaines recommandations, et surtout ce qui n'a pas marché et ce qui a fait que les pays de l'AS ont quitté la CEDEAO. Donc la CEDEAO, on pourrait s'attendre qu'il y ait une collaboration entre deux entités différentes mais complémentaires sur le plan, comme on l'a dit, politique, et sur le plan sécuritaire, plan économique, fluidité des populations. Et à long terme, on peut s'attendre que la CEDEAO puisse être réformée. La question de la réforme se pose de plus en plus de la CEDEAO.
D'accord. Parlons à présent du renforcement de la force unifiée de l'AES qui passe de 6 000 à 15 000 hommes. La montée en puissance de la force conjointe de l'AES à plus de 15 000 hommes est-elle un signal fort d'autonomisation sécuritaire?
Oui, la force en elle-même, comme je l'avais tout le temps dit, c'est un exemple concret de paradigme, ou soit qu'on appelle un cas pratique, un cas d'école, de coopération régionale souverainiste. Et si on voit un peu la force unifiée, c'est une force qui serait ancrée dans ce qu'on appelle le mécanisme de défense collective, qui répond à un besoin, c'est-à-dire la nature changeante des conflits, la nature changeante des menaces qu'on a, le terrorisme et les crimes. Et pour rappel, cette force a connu une mutation majeure de 5 000 hommes en décembre, 6 000 en février 2026, bientôt 15 000. Donc les 15 000 hommes, c'est pour répondre à un besoin stratégique, pour répondre clairement à ce qu'on appelle la transformation de cette force de réaction en un outil de sécurisation durable. Donc ces 15 000 hommes, pour moi, va changer catégoriquement les données parce que...
Mais est-ce que cette force de 5 000 hommes qui a passé à 6 000 hommes a été utile pour les populations sahéliennes?
Oui, tout à fait. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? De plus en plus, il n'y aura pas de territoires sous emprise ou des territoires où ce qu'on peut appeler des guerres conventionnelles. C'est plutôt... Et cette force a permis de récupérer des territoires, la destruction des nids des terroristes, a permis aussi à faire retourner une partie de l'administration sur les territoires. Et qu'est-ce qu'on constate? Cette force de 5 000 à 6 000 a amené des résultats escomptés dans la zone des trois frontières.
D'accord. Ces résultats escomptés, vous l'avez constaté également?
Oui, tout à fait. Rien que les dernières informations que nous avons eues à travers la force conjointe, son intervention dans la zone des trois frontières. Rien que ça, la dernière information, on peut se réjouir de la formation, de la mise en place de cette force. Et aussi, il faut saluer même le pragmatisme des différents chefs d'État qui, à un temps record, ont pu mettre tout ça en place. Et ça nous amène à nous poser la question des pouvoirs démocratiques que nous avons. Et imaginez qu'il y ait trois chefs d'État politiques, je ne crois pas qu'on puisse avoir tous ces résultats. Et ça, c'est du pragmatisme et c'est ce que la population AES est en train d'applaudir et c'est ce qu'elle avait demandé. Je pense que même les voisins à travers le peuple demandent la même chose, le pragmatisme dans ce qu'on fait. L'autonomie ou l'indépendance dans nos décisions et dans nos projets. Et ça, c'est vraiment, ça dénote, c'est un cas d'école comme il l'a dit. Et dans l'histoire même de l'Afrique, cela n'a jamais été fait. Et pourtant, depuis les années 60, on cherchait, on a toujours imaginé, cherché à faire, mais ça n'a jamais pu passer. Aujourd'hui, nous sommes dans une réalité qui doit permettre aux autres pays d'essayer de voir et de revenir vers l'AES à travers tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui.
Avec cette force unifiée de plus de 15 000 hommes, à quoi faut-il s'attendre dans les jours à venir, notamment dans la zone des trois frontières et même au-delà?
On attend, et c'est une grande attente que c'est la zone des trois frontières qui a été vraiment infestée, soit carrément libre, qu'on puisse quitter Gao et aller à Niamey sans problème, quitter Ouaga pour Niamey sans problème, c'est ce qu'on cherche et c'est l'épine aujourd'hui pour le renforcement des relations commerciales et économiques entre ces trois pays. Parce qu'auparavant, ces relations n'étaient pas aussi que ça. Mais aujourd'hui, avec la création, l'avènement de l'AES, on attend la libération totale de ces trois frontières pour que l'économie et le commerce spécialement soit une réalité.
D'accord. Docteur Hamadou Touré, vous avez parlé des résultats escomptés de ces 5 000 hommes qui passent à 6 000 et à présent à 15 000 hommes. Ces premiers résultats annoncés dans la zone des trois frontières sont-ils suffisants pour parler d'efficacité?
Oui, c'est suffisant parce que là où les forces internationales n'ont pas pu, entre guillemets, neutraliser les chefs terroristes, l'AES a montré sa capacité. Donc la plupart des chefs terroristes ont été neutralisés. La plupart des bastions, la plupart des terrains d'entraînement ou que qu'on peut appeler des territoires occupés sont neutralisés. L'exemple est là que la force unifiée, ce qu'il faudrait tenir, c'est une force autonome des forces nationales. Donc elle est opérationnelle sur l'ensemble du territoire confédéral. Et aussi, nous avons la certitude qu'aujourd'hui, ce qui existe, ce n'est plus des points fixes, des groupes terroristes, donc c'est des groupes mobiles. Donc la donne a catégoriquement changé et nous sommes tombés basculés dans ce qu'on appelle la guerre asymétrique qui certainement, l'AES a compris que la force unifiée pour faire face à cette guerre asymétrique, il faudrait qu'elle évolue. Donc de cette évolution que moi j'appelle entre guillemets une force de dissuasion, parce que cette force de dissuasion entre des 15 000 hommes peut intervenir pour lutter non seulement contre le terrorisme, mais aussi en cas d'intervention. Parce qu'il y a toujours des questions de velléité, d'attaque contre l'AES. Donc l'AES est en train de se préparer comme un modèle antiterroriste, comme un modèle de force de dissuasion, prête à intervenir en cas de besoin. Et n'oubliez pas que le principe de base de l'AES, c'est quoi? Si un pays est attaqué, tout le monde serait attaqué. Donc c'est pour dire que les résultats escomptés sont là. La zone des trois frontières commence à respirer ce qu'on appelle une nouvelle étape de souveraineté et d'indépendance purement obtenue grâce aux forces nationales.
Cette force unifiée peut-elle réellement se substituer aux mécanismes sécuritaires régionaux existants?
Oui, c'est tout à fait, parce que le point de départ de l'AES, c'est entre les trois pays. Les trois pays sont autonomes sur le plan opérationnel. Mais comme on dit, des questions transfrontalières, il faudrait demander l'appui et l'aide des voisins. Mais pour l'instant, la force AES est autonome. Mais elle peut collaborer avec des forces nationales, comme on l'a dit, ou collaborer avec des forces internationales. Mais pour le moment, elle est autonome. Et sur le plan de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, on l'a tout le temps dit, un seul pays ne pourrait pas faire face. Donc de ce point de vue, on peut s'attendre que cette force pourrait être appelée à collaborer avec d'autres forces. Mais à l'instant T, elle est autonome, elle est opérationnelle, elle porte ses fruits.
D'accord. Cette force peut-elle réellement se substituer aux mécanismes sécuritaires régionaux existants?
Je pense qu'il faut d'abord pouvoir gérer et avoir son propre plan sécuritaire et avoir ses propres moyens avant de partir sur le plan régional ou international. Il l'a dit, Ces différentes forces sous-régionales et régionales ont péché, ont échoué. Et c'est ce qui a permis de mettre cette force en place. Donc s'il doit avoir une collaboration, ce sera une collaboration et honnête, ce sera une collaboration par rapport aux intérêts des uns et des autres. Ce ne sera pas une collision, ce ne sera pas une invention, ce ne sera pas une force qui va venir s'installer dans un des pays de l'Est pour intervenir. Ce sera dans le cadre de la collaboration. Donc moi, il n'y a pas de problème. Il devrait avoir un problème si les forces de l'AS n'avaient pas d'identité, n'avaient pas déjà quelque chose qui est que maintenant. La collaboration devient beaucoup plus facile.
Les pays de l'AS ont-ils les moyens nécessaires pour faire face à cette force de plus de 15 000 hommes?
Les pays de...
De l'AES, ont-ils les moyens de leur ambition? Ont-ils les moyens de leur ambition?
C'est un processus. Ce qui a commencé par 5 000, 6 000 jusqu'à 15 000, ça va évoluer. Et les différents pays, à travers leur armée, sont en train de se préparer à travers les recrutements, les formations et les équipements. Et là, sur le point sur lequel je serais d'accord par rapport à votre question, c'est que on a toujours besoin de collaborer avec les voisins si toutefois ils sont de bonne foi. Si le voisin est de bonne foi, c'est encore mieux et c'est plus facile de lutter contre. Mais si vous avez des voisins qui sont dans d'autres, qui ont d'autres objectifs, il faut aller jusqu'à ce que les choses puissent se mettre ensemble.
Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui porte sur le thème AES CD a ouvert un nouveau départ. Et nous étions avec Dr Hamadou Touré, spécialiste en gouvernance locale, et Mohamed Cissé, leader d'opinion. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence.